Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que la dernière fois que j'avais partagé avec vous, j'avais partagé sur le sujet du Saint-Esprit qui nous conduit dans la sagesse, dans la vérité, n'est-ce pas? Et qui nous conduit aussi dans l'authenticité. Et je pense que c'est une chose qui doit être vraiment très forte dans nos vies, que nos vies se laissent conduire par Dieu. Que nos vies se laissent conduire par sa pensée, par ce qu'il veut nous dire, par ce qu'il veut... Alors j'aime bien l'image d'infuser en nous. D'accord ? On est un petit peu comme ça, Dieu met l'eau chaude et puis on infuse. D'accord ? Et en tout cas, je crois que vraiment l'objectif que Dieu veut fixer sur nos vies, c'est que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. Accomplis. Et des fois, on se débat dans la vie, on se débat pour plein de choses, mais il y a une solution, il y a des repères que Dieu veut nous donner et qui sont centrés autour de Jésus, qui sont centrés autour de son nom, mais que vraiment nous puissions être des hommes, des femmes accomplis dans notre appel, parce que nous avons un appel dans nos vies. Nous ne sommes pas laissés... pour rien, et cet appel-là, c'est déjà celui d'être serviteur et servante de Dieu. Et serviteur et servante de Dieu, ça ne veut pas dire que je vais devenir un grand homme ou une grande femme de Dieu. Ça ne veut pas dire que je vais être quelqu'un de connu, ou que tout le monde va regarder avec attention. Ça veut dire être quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu, et qui recherche ses voies, et qui recherche ce qu'il veut faire, et qui prend soin de ce que Dieu fait aussi dans notre propre vie. Parce que Dieu agit, Dieu travaille, pour que plus encore Christ soit accompli en nous. Que la réponse à tout ce cheminement que nous faisons dans notre vie, c'est l'accomplissement de Christ en nous. Et comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous et moi, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et vous et moi devons retrouver pleinement, par la grâce que Dieu nous fait de sa présence dans nos cœurs, dans nos vies, cette image qui est en nous, cette image de Dieu-là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait Paul dans Galates 2:20. Et cette image est très forte parce que dans notre cheminement, nous sommes souvent amenés à des croisées de chemin. Amené à des moments où nous avons à faire des choix. Nous avons à choisir pour notre propre vie, nous avons à choisir pour la vie de personnes qui peuvent nous entourer, pour notre famille, pour différentes choses. Et nous avons besoin que Dieu nous conduise, et que ce soit le Saint-Esprit qui puisse nous conduire dans la volonté de Dieu. C'est une vérité, c'est une chose sur laquelle je pense, on est tous d'accord. Mais ça veut aussi dire que nous nous laissons conduire selon des chemins qui ne nous sont pas forcément familiers, sur lesquels nous n'avons pas forcément, comment dire, la tranquillité d'une petite routine, où on pourrait se dire, bon, voilà, les choses sont là, le Saint-Esprit me conduit, c'est bien, je suis dans la voiture de Jésus, c'est lui qui conduit, et moi, j'ai plus rien à faire. Est-ce que c'est comme ça que les choses se passent ? C'est pas comme ça que les choses se passent, parce que Dieu nous appelle à la découverte de nouveaux horizons. Et nous appelle à découvrir de nouvelles choses dans lesquelles nous aurons à faire des choix inspirés. Des choix qui sont selon son cœur. Des choix empreints de sagesse, empreints de justice et empreints de vérité. Des choix dans lesquels nous sommes véritablement cette infusion. Et nous diffusons autour de nous, par la présence de Dieu, nous diffusons autour de nous le parfum de sa sagesse et le parfum de sa vérité. Alors c'est un peu théorique, mais il y a une chose qui, moi, lorsque des fois il m'est arrivé d'être d'un petit peu dans des chemins, dans des croisements dans ma propre vie, il y a des questions que je me pose souvent, il y a des questions que je peux me poser, et c'est de dire, alors je ne vais pas me flageller, je ne vais pas dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai mal fait, c'est pas bon, je suis pas un bon chrétien, autre chose. Non, c'est dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je voie? Qu'est-ce qui m'échappe? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vois pas? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Et je crois que Dieu nous appelle à, nous amène à voir, nous cherche à nous amener sur des terrains où l'on voit des choses que l'on ne voit pas, où l'on peut comprendre des choses que l'on ne comprenait pas, pour déjà, nous-mêmes, à notre niveau, nous amener à changer, nous amener à prendre des tournants dans notre propre vie, dans nos habitudes, là où peut-être on se trouve confiant, là où peut-être on peut se dire, bon ben, ça va, là je maîtrise. Bien souvent, Dieu peut nous amener à revoir notre jugement, pour comprendre que nous sommes en marche et que nous sommes appelés à réviser sans cesse notre position par rapport à ce que nous faisons. Nous ne sommes pas parfaits, mais lorsque je sais que je fais quelque chose de mal, lorsque je comprends et que je réalise des fois même le mal que je fais autour de moi, ce qui en découle, si je ne fais rien pour changer cela, alors je suis un homme, excusez-moi, ou une femme stupide. Un homme ou une femme qui, lorsqu'il se regarde finalement, un petit peu comme le dit dans la parole, dans la glace, il se détourne de cette image, se détourne de la vérité, parce que nous sommes appelés à changer, parce que nous sommes appelés à réformer nos voies, parce que même si le Saint-Esprit veut travailler dans notre vie, si notre cœur est dur au point que nos vies, nous ne voulons pas changer, alors le Saint-Esprit peut être bloqué dans la marche, parce que nous avons ce besoin d'être des apprenants de Dieu, des hommes et des femmes qui sont capables d'être éduqués par Dieu. Si nous restons sur nos positions, si nous restons sur notre socle de fer en disant « je suis bien là où je suis », nous ne sommes pas en mouvement. Nous ne pouvons pas aller plus loin, nous ne pouvons pas avancer. Et si Dieu veut nous montrer des chemins nouveaux, si le Saint-Esprit veut nous pousser vers des chemins dans lesquels nous ne sommes pas forcément à l'aise, peut-être, dans lesquels ce n'est pas forcément notre, entre guillemets, notre tasse de thé, eh bien si nous sommes fermement sur notre socle, nous n'allons pas bouger et nous n'allons pas apprendre de nouvelles choses de la part de Dieu. Nous n'allons pas apprendre à mener nos vies de manière souple et à laisser nos vies se laisser porter par les choix que Dieu veut pour nous. Nos vies sont portées par nos choix. À un moment donné ou à un autre, dans nos vies, nous faisons des choix. Et bien souvent, c'est facile de dire « Seigneur, je te donne tout, prends tout. Je te laisse tout gérer. » Mais nous avons nous-mêmes notre responsabilité. Nous avons nous-mêmes un cheminement que nous faisons devant Dieu et dans lequel il veut nous conduire, bien sûr, mais nos vies sont portées, en tout cas dans la majorité des cas, dans la plupart des cas, par les choix que nous faisons. Et soit ces choix-là, des fois, sont des bons choix, et d'autres fois, peuvent être de mauvais choix. Mais c'est là que je veux en venir. Dieu nous appelle à être des gestionnaires de nos propres vies, à savoir gérer nos vies. Et alors, j'aborde ce thème honnêtement, en toute humilité devant vous, parce que nous sommes chacun en chemin, et que je le dis pour moi-même, l'aspect gestion, pour ma propre vie, est quelque chose qui n'a pas été très simple, ou n'est pas facile tout le temps. Mais c'est un enseignement dans lequel, depuis quelque temps, Dieu me conduit, et je me dis, il faut en partie en parler, parce qu'il ne s'agit pas de toujours dire je suis conduit, je me laisse conduire, je fais des choses, mais à un moment donné, on est face à la réalité de nos propres vies, on est face à ce qui nous entoure, on est face soit à des finances, soit à des défis, soit à des choix, que ce soit les jeunes pour choisir, je sais pas, une école ou pour obtenir quelque chose. On est constamment face à ces défis, et bien sûr, Dieu veut nous conduire dans ces choix-là, mais aussi, il nous a donné la capacité aussi d'y réfléchir et aussi de savoir faire des choix. Alors, je vais certainement un petit peu plus détailler. Alors un gestionnaire, quelle est la particularité d'un gestionnaire? C'est que il doit faire des choix, il doit savoir faire des choix pour garder une certaine ligne de conduite et des objectifs et faire preuve de détermination dans ce qu'il dans ces objectifs là. Et il fait pas forcément toujours les bons choix, mais en tout cas, il se doit d'apprendre de ses erreurs. Il doit savoir prendre des directions et savoir et pouvoir, et des fois, on fait pas forcément les bons choix, mais on doit savoir apprendre de nos erreurs pour corriger ces directions-là. Pour pouvoir revenir sur le droit chemin, pour pouvoir rebondir et avancer. Parce que nous apprenons de nos erreurs. C'est vrai ou faux? Qui d'entre nous n'a jamais commis d'erreur? Je lui jette la première pierre. Bien sûr que non. Nous sommes tous dans le même cas de figure. Nous apprenons de nos erreurs. Et ce n'est pas quelque chose d'inconnu pour Dieu. Dieu ne nous demande pas, Dieu ne nous demande pas d'être parfait comme ça. Dieu ne nous dit pas, mais alors là, tu as fait une erreur. C'est pas bien. C'est pas ce que je voulais. Tu vois, tu ne m'as pas écouté. C'est pas cela. Dieu sait que nous allons faire des erreurs. Il sait que nous allons des fois trébucher. Il sait aussi que des fois nous allons tomber. Mais son objectif, c'est que nous sachions nous relever pour mieux avancer, pour aller plus loin. Et aussi que nous sachions réfléchir à ce qui nous a fait tomber. Que nous sachions réfléchir aux pierres qui sont devant nous, qui ont pu nous faire trébucher. C'est tellement évident, lorsque moi je marche, que je trébuche sur le chemin. Qu'est-ce qu'on fait en général? On se retourne en arrière et on regarde. C'est vrai ou pas? Et des fois, on aurait la folie de trébucher et de continuer. Et de même pas regarder qu'est-ce qui a fait qu'on a trébuché? Qu'est-ce qui a fait qu'on a tombé? Quelle leçon est-ce que je peux tirer de tout ça? Quelle leçon est-ce que le Seigneur veut me donner? La vie chrétienne, c'est accepter de faire des choix. De faire des choix. Là où parfois même d'autres sont à même de faire des fois des compromis. Des fois faire preuve de duplicité ou de fuir. Et tout ça, faire les compromis, voilà, même la fuite par rapport à certains sujets. Oh, moi je ne me prononce pas. Moi, vous savez, ça c'est des sujets. Je suis d'accord pour tout. Mais quelle est notre identité? Et les choix que nous faisons développent notre identité en Christ, développent notre identité de chrétien, développent aussi la force que nous avons de nous affirmer en Dieu. Et alors bien sûr, on pourrait tomber dans des pièges, bien sûr on peut trébucher, mais toujours pouvoir se relever. Alors je l'ai dit tout à l'heure, effectivement on dit « Seigneur, je te donne tout ». Et le don de soi, c'est quelque chose d'important. Quand on vient à Christ, on est très sensible à cet élément-là où, Seigneur, vraiment, tu prends tout. Il n'y a plus rien qui compte pour moi. Je peux mourir demain, je peux mourir, peu importe. Je vais avec toi, Seigneur. Je vais entièrement, gloire à Dieu. Mais des fois, même dans le cheminement chrétien, on oublie ça. Et on se dit, bon, ben, finalement aussi, il faut savoir relativiser les choses, quand même. Mais dans ce que l'on donne, des fois, à Dieu, même si on dit que l'on donne, « Oui, je te donne ma vie », souvent ça concerne « Seigneur, je te donne mes soucis »,« Seigneur, je te donne mes besoins », etc. Mais pour autant, je ne suis pas soustrait à ma responsabilité que j'ai de savoir les mener à bien. De savoir mener ces choses-là que Dieu a placées dans ma vie, à bien, jusqu'à son terme. Et c'est dans ce sens-là que, quand on regarde par exemple Adam dans le jardin, lorsque Dieu a parlé à Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, ok, Adam, tu es dans ce jardin, regarde, j'ai préparé pour toi un hamac, il est là-bas, tu vas pouvoir te reposer pendant l'éternité. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit à Adam? Il n'a pas laissé Adam dans l'insouciance, dans, comment dire, voilà, laissé dans l'oisiveté, merci. Il n'a pas laissé Adam dans cette situation-là. Et il lui a confié, on appelle ça, c'est le mandat que Dieu a donné à Adam, il lui a confié les biens terrestres. Il lui a confié ce jardin et il lui a dit, mais tu vas travailler Adam, tu vas t'en occuper de ce jardin. Tu ne vas pas rester là sans rien faire. D'accord ? Il l'a placé dans le travail. Il lui a donc pas juste dit, voilà, le paradis, c'est je ne fais plus rien, je suis dans la joie. Et la notion de paradis où je ne fais plus rien, c'est pas biblique. Quand on va aller auprès de Dieu, on fera quelque chose. Parce que Dieu nous met à l'œuvre pour son royaume. Dieu nous met à l'œuvre pour son royaume. Et Adam, il l'a mandaté pour être le gestionnaire du royaume qu'il plaçait devant lui. Pour être le gestionnaire de ses biens qu'il passait devant lui. Et c'est notre appel aussi à nous. Alors bien sûr, avec le péché, la difficulté est devenue plus grande. Beaucoup d'obstacles se sont placés en chemin. Il a transpiré, c'était plus difficile, les mauvaises herbes, tout un tas d'autres choses, alors que les choses pouvaient être plus simples, alors que l'ensemble de la nature était cohérente avec ce mandat de l'homme, les choses ont été divisées, ont été séparées, et chacun se bat contre l'autre. Chacun est en lutte contre l'autre. Et nous sommes nous aussi en lutte, bien sûr, mais nous avons à réaliser un mandat de Dieu pour nos propres vies. Nous avons à réaliser l'appel de Dieu. Et le don de soi, le don à Christ, ce n'est pas seulement tout laisser tomber pour dire « Seigneur, tu fais toutes choses et moi, j'ai plus rien à faire. » Mais savoir faire, c'est il nous reste encore à faire les bons choix, à demander conseil à Dieu, à savoir nous placer devant lui, bien sûr, mais à demander conseil à Dieu. Et c'est assez étonnant que des fois, je veux dire, quand on lit la Bible, et quand on lit dans le Deutéronome, Dieu parle à son peuple, il lui dit « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Il n'a pas dit « Laisse-moi choisir pour toi. » Il a dit « Choisis la vie afin que tu vives. » Donc il a donné la capacité à chacun d'entre nous d'être en mesure de faire des choix. Et des fois, on pourrait être en mesure de dire « Mais c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de lui, c'est la faute du diable, c'est la faute d'un tas de choses. » Mais on ne se pose pas toujours la question de quelle est ma responsabilité dans cette situation. Quelle est la part de ce que je n'ai pas réalisé dans cette situation. Et moi, je suis étonné parce que des fois, même de la part des non-croyants, on peut recevoir des leçons. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je le crois, et Dieu a parlé, même dans la Bible, à plusieurs reprises, de personnes qui ne marchaient pas droitement devant Dieu, mais qui ont été source de conseils à des moments donnés par lesquels Dieu a pu parler, parce que Dieu peut toutes choses. Et moi, je suis étonné des fois de ce que... Que ce soit même au travail, en particulier forcément au travail, de ce que je vois des gens qui ont évolué, qui sont proches de certaines personnes qui ont un travail qui n'est pas facile et qui sont capables de faire preuve de compassion, qui sont capables de faire preuve de... Alors que d'autres personnes, certains gestionnaires, parce que c'est vrai que certains gestionnaires sont très froids, sont très rigides, d'autres aussi sont en mesure d'être à l'écoute. Et leur manière de voir et d'aborder les choses, on se dit, mais waouh, si je pouvais moi aussi apprendre de lui, ce serait quelque chose de bien. Et c'est pas parce que je suis chrétien que je sais toutes choses. Mais on a besoin de regarder autour et de voir comment même, dans les choix que nous faisons, on a besoin de cette réponse de Dieu. On a besoin que Dieu nous donne une réponse. Et c'est assez étonnant de voir que des fois, Dieu, lorsqu'il donne des réponses, il pose des questions. Vous n'avez pas remarqué ça? Parce que des fois, ben, particulièrement Jésus, quand on lui posait la question, je prends l'exemple de la pièce, hein, d'accord? La pièce qui est montrée, c'est à qui est-ce qu'on doit donner le tribut? Alors Jésus pose des questions, il répond souvent. Alors c'est un peu juif aussi ça, hein. Donc on va dire que peut-être Dieu est juif. Mais en tout cas, il pose des questions. Lorsque Élie vient le voir et qu'il cherche des réponses pour sa vie, il est troublé, ah, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui pose une question, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Pourquoi est-ce que tu n'es pas là-bas? Et Élie est monté, et il a été gravir des sommets pour avoir une réponse de Dieu, et il se retrouve avec une question de Dieu. Parce que la réponse était déjà là dans sa vie. Parce que peut-être toute la situation dans laquelle il se trouvait, il n'avait pas réalisé que cette réponse était là. Je n'arrêterai pas de Pierre à Élie, mais venir à Dieu entièrement, à Christ, c'est venir avec tout ce que l'on est. Corps, âme, esprit. Je suis moi-même des fois étonné, comme des fois on sépare les choses, parce qu'on dit, voilà, le corps, l'âme et l'esprit, tout ça, on dirait qu'il y a à chaque fois, hop, là ça y est, là je suis dans le domaine du corps, là je suis dans le domaine de l'esprit, là je suis dans le domaine de... Voilà, tout est bien séparé, la vérité c'est pas ça, tout est bien imbriqué l'un dans l'autre. Nous formons un tout, et Dieu, lorsqu'il s'adresse à nous, il s'adresse à nous en tant que tout, en tant que un. Et lorsque des fois je vois qu'on sépare et on dit, voilà, ça, ce sont les choses de l'esprit, ça, ce sont les choses de l'intelligence, on ne va pas toucher à ces choses-là parce que là, Dieu ne se trouve pas. D'accord ? Dieu nous a formés pour être des hommes et des femmes intelligents, pour que nous soyons en mesure aussi de réfléchir. Que nous soyons en mesure de nous placer devant lui, de réfléchir, mais aussi de réfléchir à notre vie, à ce qui va, à ce qui ne va pas, de savoir faire des points et dire, voilà, là je suis en règle avec toi. Là, je ne sais pas. Des fois, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Éclaire-moi. Instruis-moi. Et donc, il ne s'agit pas simplement de se dégager de cette vie. Combien de fois j'ai entendu, même des gens un peu désespérés des fois, ça se comprend, mais dire, oh, cette vie, j'en ai marre. Cette vie, j'en ai marre, il me tarde de mourir pour aller rejoindre le Seigneur. Ça m'est arrivé, honnêtement, plusieurs fois. Mais pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi est-ce que nous sommes sur terre? Pourquoi est-ce que nous ne serions pas nés finalement dans le ciel directement? Ça pourrait être sympa. Alors on évite tout un tas de problèmes, tout un tas de difficultés, encore qu'on ne sait pas trop voilà, ce qui nous attend comme défi. On ne sait jamais. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Si ce n'est pas pour être une réponse à ces défis qui nous sont proposés, et parce que nous sommes en mesure de répondre à ça. Parce que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Mais dans les réponses que nous donnons, bien sûr, il peut y avoir les réponses selon la chair, il peut y avoir les réponses selon l'esprit. Ce n'est pas évident toujours de dire ce qui est selon la chair, ce qui est selon l'esprit, honnêtement. On ne va pas mettre de jugement sur ces choses-là, c'est à chacun un peu de voir. C'est à chacun un petit peu d'appréhender ces choses-là. Parce que ce n'est pas simple. Mais Dieu, bien sûr, veut nous conduire selon l'esprit, dans le corps de chair que nous avons, nous inspirer, et ne pas être seulement des spectateurs de notre propre vie, mais des acteurs. Pas être défaitiste, pas être fataliste, mais regarder vers le roi des rois que nous avons. Regarder vers ce Seigneur qui nous remplit d'espoir et qui nous donne d'avoir une vision, une manière de voir les choses différentes. Parce que, bien souvent, nous pouvons être portés dans le désespoir, dans ce qui nous entoure. Toute notre vie se doit d'être cohérente devant Dieu, pas une partie seulement. Lorsque Dieu s'adresse à nous, il s'adresse à nous dans notre totalité, dans ce que nous sommes entièrement. Et s'il nous a donné des capacités, il veut aussi les faire fructifier, il veut aussi les faire grandir, il veut aussi les amener plus loin. Quand dans la Bible, on voit cet homme, ce jeune homme, donc dans Matthieu 19, ce jeune homme qui vient devant Dieu et qui a obéi à tous les commandements, qui a obéi à toutes choses, et qui dit, mais voilà, moi j'ai suivi toute la loi, j'ai fait tout ce qui est bien, que dois-je faire pour être sauvé? Il avait eu beau faire plein de choses, il sentait dans son cœur qu'il y avait encore quelque chose qui manquait. Il savait qu'il n'avait pas tout accompli. Et il vient, il pose la question à Jésus, et Jésus touche forcément à ce qui ne va pas, et lui dit, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et là, il a touché à son propre trésor. Il a touché à ce qui avait du prix à ses yeux. Et dans ce passage-là, on n'est pas. Je crois qu'il faut voir les passages et les versets dans la Bible dans leur contexte. Jésus s'adresse à cet homme. Il s'adresse pas forcément à chacun d'entre nous, d'accord? À chacun. Alors j'aime bien. Je fais une parenthèse tous les soirs avec mon fils. On lit. On a pris depuis le début de l'été. On lit Narnia. On lit un chapitre ou deux de Narnia et c'est formidable. On se régale. Johan, il attend là ça tous les soirs pour qu'on puisse continuer cette histoire. Et il y a des choses, ça m'a touché parce que dans l'histoire, il y a forcément le lion, c'est Aslan. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais le lion, c'est l'image de Jésus qui vient et qui donne même sa vie pour tout le monde. Et le lion, c'est Aslan. Alors, il n'y a pas que les films, il y a d'autres histoires encore que je ne connaissais pas et que je découvre. Dans l'une des autres histoires, il y a ce lion-là qui s'en prend à une personne, et un autre qui vient, qui défend cette personne. Et un peu plus tard, cette personne qui a pris la défense, elle chemine avec ce lion, et elle découvre qu'il est le créateur de... C'est lui le créateur de toutes choses. Mais il lui dit, mais qu'est-ce que tu as... Pourquoi est-ce que tu l'as blessé, plutôt? Pourquoi est-ce que finalement, toi... Je suis étonné que ce soit toi qu'on appelle Aslan, parce que... Pourquoi est-ce que tu as été jusqu'à la blesser? Et le lion lui dit, je te raconte ton histoire, mais je ne te raconte pas l'histoire des autres. Et Dieu nous raconte notre propre histoire, et ça m'a beaucoup touché parce que je trouve que c'est cohérent avec la pensée, la Bible, parce que des fois, c'est pour revenir à ce passage, donc Dieu raconte l'histoire de ce jeune homme, mais des fois, il ne nous raconte pas forcément notre propre histoire. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ce point-là avait dans la vie de cet homme quelque chose de très important. Pour Christ, le problème de l'argent n'est pas un problème. Que quelqu'un ait beaucoup d'argent ou qu'il n'en ait pas beaucoup, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de savoir qu'est-ce qui conduit, qu'est-ce qui dirige sa vie. Qu'est-ce qui le mène, qu'est-ce qui l'amène à aller à avancer dans sa vie. Et bien sûr, on peut faire tout un tas de choses pour Dieu, on peut faire tout un tas d'éléments, mais à un moment donné, lorsque ça bloque, et ce jeune homme réalisait qu'il y avait quelque chose qui bloquait dans sa vie, il y avait quelque chose qui le gênait, alors pour lui, c'était ses richesses qui avaient tellement d'importance, pour nous, ça peut être autre chose, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a réalisé ça, il a posé la question, et Dieu lui a dit, voilà, il y a ça. Et là, ça a bloqué. Et là, pour lui, c'était le problème. Parce que Dieu met le doigt sur des situations, sur des sujets dans nos vies qui peuvent avoir tellement d'importance pour nous, mais qui, à l'échelle de son royaume, ont si peu d'importance. Et lorsqu'on fait le point sur notre vie, lorsqu'on regarde de manière authentique notre propre vie, il faut aussi venir à Dieu en se disant « Il va y avoir des choses que je vais devoir changer dans ma vie. » Il va forcément y avoir des éléments que je vais devoir réformer. Il y a forcément des points que je vais dans lesquels je vais devoir faire quelque chose d'autre. Je vais devoir changer, je vais devoir faire les choses. Mais quand on vient devant Dieu, il faut être au courant de ça. Il ne faut pas venir en disant « Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. » Et puis dès que Dieu nous dit ce qui ne va pas, on passe à côté, on se dit « Oui, mais là, tu touches à un truc qui ne me va pas, moi. » Là, c'est pas trop le sujet qui m'intéresse. Mais être en mesure de savoir prendre nos responsabilités jusqu'au bout par rapport à ce que Dieu nous dit. Alors, je reste volontairement flou parce que je pense que peut-être ça a un écho, je l'espère, dans la vie de chacun d'entre nous de manière différente parce qu'on a chacun une histoire différente. Mais c'est ce fait-là que nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Nous voulons accomplir des fois ses desseins, les desseins de Dieu. Mais parfois nous laissons dépasser par nos désirs, par nos standards, par nos repères, par nos ambitions, nos rêves ou des fois même nos peurs. On se laisse dépasser par tout ça. Alors que Et j'aime bien, j'aime bien imaginer c'est les choses comme ça. Dieu est celui qui regarde les choses en face, qui ne détourne pas son regard. Et lorsqu'il regarde quelque chose, il regarde droit devant. Il nous regarde droit dans les yeux. Il n'est pas là en train de détourner son regard pour dire « oui, je... » Il nous regarde droit dans les yeux. Il regarde droit à notre cœur. Il regarde droit à notre vie. Et il s'attend à ce que nous-mêmes, nous soyons dans cette disposition de cœur pour regarder les choses dans nos vies droitement. Droitement. Même si nous avons des peurs. Même si nous avons, même si nous avons de l'ambition, des rêves ou tout un tas de choses, que notre regard puisse être plongé droitement dans, dans les biens que nous sommes en mesure de gérer. Je dis en mesure parce que Dieu nous a donné la capacité de le faire. Même si nous croyons que nous ne sommes pas en mesure de le faire, même si nous disons que ce n'est pas possible. Pour une raison bien simple, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves d'une chose ou d'une autre. Dieu ne veut pas que nous soyons maîtrisés, dominés par quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, mais il y a des choses que nous pouvons apprendre. Et si nous arrêtons notre cheminement en disant « là, je ne veux pas », eh bien peut-être nous passons à côté de quelque chose. Dieu est celui qui peut nous permettre d'apprendre. Il n'est pas là en train de dire « mais je ne vais pas t'accompagner ». Mais quand un défi nouveau se fait, quand on fait face à un défi nouveau, la fuite n'est pas la meilleure des solutions. La fuite n'est pas la meilleure des solutions. Et en tout cas, personnellement, je l'ai appris. Et c'est une réflexion que j'ai eue qui m'a. Sur laquelle, honnêtement, hein, je vous dis les choses, je suis franc avec vous. J'ai hésité à le partager. J'ai vraiment hésité à le partager parce que. Dans la gestion des biens, c'est pas quelque chose qui est facile tout le temps. Et notamment, même dans la gestion de l'argent. Même dans la gestion de l'argent, il y a des... Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien la technique, qui aime bien creuser des sujets, qui aime bien aller... Mais vous m'auriez pris à l'âge de 10 ans, je vous aurais dit, l'argent, ça m'intéresse pas. Vous m'auriez pris à 15 ans, j'ai jamais eu ça, d'accord? Donc on est fait chacun d'une patte différente. Et personnellement, je me suis dit, mais j'avancerai jamais dans sur ce sujet-là. J'avancerai, je vois pas comment je peux... Parce que pour moi, déjà, j'ai rien que j'approche ce sujet-là. Alors, je parle de l'argent, ça peut être autre chose, hein, mais rien que j'approche ce sujet-là, c'est quelque chose qui me... Voilà, je suis pas à l'aise, je suis pas dans mes baskets, quoi. Je suis pas dans mes souliers. Alors, je vais fuir et je vais aller plutôt dans un autre... dans autre chose. Et c'est... Voilà. Ok ? Ça va, vous me jugez pas, hein, j'espère. Parce que Dieu m'a appris des choses. Dieu m'a enseigné et depuis pas mal de temps, je vous donne ça comme témoignage, depuis pas mal de temps, avec Annie, on voit des difficultés financières qui viennent. Au début, c'était pas grand-chose et ça grandit de plus en plus et on se retrouve embourbé dans un tas de choses. De plus en plus, ça grandit. Et on se dit à un moment donné, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Pourquoi ? J'ai jamais eu de problème de ma vie. Alors, évidemment, quand j'étais célibataire, c'est facile, je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort. Mais avec, quand on se marie, qu'on a des enfants et tout un tas de choses, là, ça devient beaucoup plus difficile. Et ce sont des défis nouveaux. Et c'est bien, savoir mener sa famille, savoir bien éduquer ses enfants. Mais savoir mener sa famille au sens large, au sens aussi des biens, et des biens matériels, de ce qu'on dispose, c'est encore un autre domaine dans lequel j'ai... Je pense que j'ai été forcé d'apprendre des choses et je suis toujours en apprentissage, honnêtement. Mais parce que, et donc pour vous donner ce témoignage, donc on était dans cette situation où on se rend compte que ça diminue de plus en plus, ça diminue de plus en plus, au point que bon, ben je vais voir mes parents et je leur dis bon, est-ce que je peux pas me prêter un peu d'argent? Est-ce que si? Et puis on va voir après pour échelonner. Et au bout d'un moment, je me dis mais ça j'en peux plus. Ça ne fait que augmenter. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et forcément, la pensée m'est venue de comment est-ce que tu gères tes biens ? Comment est-ce que tu gères les biens que je t'ai donnés ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, je me suis mis dans un travail de comptabilité, de tas de choses, et c'est pas facile. Honnêtement, c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est vraiment pas mon... voilà, c'est, je sais pas comment dire, c'est vraiment pas mon truc. Et pourtant, compter les chiffres, pourquoi pas, mais c'est pas là. Mais là, j'étais obligé. Au pied du mur, il fallait le faire. Et donc, je l'ai fait, je regardais, j'ai tout mis à plat, je me suis pris un logiciel pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir savoir où partaient les dépenses, où part ici, où partaient là, où, pour avoir avec des schémas en barre, des trucs comme ça. Et regardais, et je me dis, waouh, là, c'est quoi. Et puis, en regardant tout, je me suis dit, mais c'est un truc qui est bizarre. Pour Johan, on avait des aides sociales. Pour Yael, on ne les a pas. Mais soit on n'en a pas, on n'a pas droit. Pourtant, j'ai fait toutes les démarches et tout ce qui allait pour ça. Et du coup, je suis allé sur les, sites, j'ai regardé. Je me suis rendu compte que mon fils, mon jeune fils, était pas inscrit. Je fais quoi ? Mais comment c'est possible ? Mais j'ai envoyé tout ce qui est. Au moment où on avait la liste pour envoyer à tous, j'ai tout envoyé. Et visiblement, soit ils l'ont pas reçu, soit j'ai donné une mauvaise adresse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, j'ai rempli les papiers et je les ai contactés. Ils m'ont dit bah oui, il nous manque un truc. Ok, je l'ai envoyé. Et puis, j'ai plus de réponse depuis plusieurs mois. Ils m'ont dit bon, ça c'est reparti, il va falloir encore les relancer, ça c'est l'administration, c'est le truc, voilà, et tout ça. Et puis la réponse est venue et j'ai été étonné. Parce que de tout ce cheminement qui s'est passé, là, j'ai des comptes qui sont impeccables, ok, c'est bien, je suis content, je sais ce qu'il y a, et ça fait du bien quelque part, de savoir un peu ce qu'il y a. Mais de tout ce cheminement, je me suis rendu compte quand... Alors, je vais pas vous confier tout, hein, mais je me suis rendu compte quand c'est arrivé, j'étais comme ça, j'ai regardé mes dettes, et j'ai regardé ce qui est arrivé, on pouvait faire l'équilibre. Autrement dit, et parce que j'avais cette pensée, délivre-toi du filet de l'oiseleur. Mais quand on est dans la bourbe, quand on est comme ça, on ne sait pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution. Je vais trouver un autre travail. Je vais travailler le soir, je vais faire d'autres choses. J'ai que 24 heures dans la journée. Comment on va faire? D'accord? Et j'étais là, je me suis vraiment humilié. J'ai dit, Seigneur, je comprends. J'ai pris une sacrée leçon, j'ai pris une sacrée gifle. C'est que, bien sûr, il reste à poursuivre, hein, d'accord ? Mais quand il y a un poids qui s'est ôté de mon épaule, il y a un poids qui s'est ôté de nos vies, on dit, ok, là maintenant, on peut rembourser, on peut déjà repartir à zéro. Et on va voir où le Seigneur nous conduit. On va voir, il y avait un grain de sable dans tout ce qu'on pouvait faire. Et ça a été très flagrant parce que je réalise que le moindre détail compte. Le moindre détail compte dans nos vies. Et il ne s'agit pas d'être spirituel. Il ne s'agit pas de passer notre vie aussi en prière. Il s'agit aussi d'être factuel, d'être pratique, d'être discipliné dans ce que nous avons, dans ce que Dieu nous donne, dans les biens que Dieu nous donne, de savoir les mener et de savoir les gérer. Donc là, bien sûr, je parle d'argent, mais ça peut être décliné à beaucoup de choses. Ça peut être décliné à beaucoup de choses parce que si je parle d'être gestionnaire de notre propre vie, c'est parce que le principe même du péché qui s'inscrit dans nos vies s'inscrit dans ce que nous ne gérons pas. Le diable rôde tel un lion rugissant. Il cherche comment nous dévorer. Il cherche le moment où il pourra nous sauter dessus. Il cherche cette faille qu'il y a dans notre vie. Ça vaut, donc dans ce cas de figure, bien sûr pour l'argent, mais cela vaut aussi pour nos propres vies. Cela vaut pour quelque chose, un péché qui est caché et sur lequel Dieu veut mettre la main et dans lequel il veut dire, mais ce détail-là, ça coince. Et tant que tu n'auras pas réglé ce détail, tu ne pourras pas avancer. Tant que tu n'auras pas regardé ça en face. Parce que, il faut vous dire, pour revenir à ce témoignage, pour moi, aller me connecter à mes comptes en banque, c'est un calvaire. Mais c'est ma croix. C'est ma croix. Mais une fois qu'on passe par la croix, peut-être après, et qu'on meurt à soi-même, on passe par la résurrection, amen, amen. Mais non, mais c'est pas une blague. J'ai toujours une appréhension. Quand il faut taper le mot de passe, qu'est-ce que je vais voir après? Non, mais Je ne dis pas ça pour... Mais c'est parce que ça peut être vrai pour plein de situations dans nos vies. Nous pouvons être pris par la peur. Nous pouvons être pris par le doute, par tout un tas de choses. Mais j'ai cette certitude que, quelle que soit la situation, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par celui qui mène nos vies. Et s'il y a un point de détail qui ne va pas, ne pas le fuir. Ne pas se dire « je verrai ça plus tard », mais le prendre à cœur, apprendre à regarder les choses en face, apprendre à le regarder, que ce soit dans notre vie de péché, que ce soit dans notre vie de tous les jours, chaque chose, la moindre erreur, la moindre faille, la moindre faute, le moindre écart, que nous sachions venir regarder cela en face. Et je vous parle à vous, je me parle à moi aussi, hein. Que nous sachions regarder cela en face et être des vaillants guerriers. Être des soldats, être des hommes et des femmes qui prenons leurs responsabilités. Qui ne reportons pas toujours la faute sur les autres. Qui ne reportons pas la faute sur un tel ou un tel ou un tel. Et quand je parlais tout à l'heure, j'ai oublié de dire, quand je parlais tout à l'heure de ces hommes et ces femmes que au travail, j'ai été étonné comme des fois, dans le service, quelqu'un a pu faire une erreur et le responsable a pris ça sur lui. C'est un bon... a pris ça sur lui. Moi, je me suis dit, waouh, ça, c'est quand même fort, quoi. Il n'est pas chrétien. Hein. Je veux dire, il n'a pas de notion, tu vas sacrifier autre chose. Mais ça fait une différence. Parce que du coup, tout l'ensemble du service est derrière lui et le soutien. Et il a pris la défense, il a dit, bon, écoute, même en partie, il a dit, c'est moi qui le gère. C'est moi qui le gère, je ne parlerai pas de toi, c'est moi qui vais voir ça. Je dis, c'est fort, parce qu'il y a plein de situations où j'ai vu, ouais, mais attends, c'est pas de ma faute, c'est lui qui l'a fait. C'est pas de ma faute, c'est... Voilà, moi j'y suis pour rien dans cette situation-là, c'est... Et je crois que c'est crucial, dans notre vie de foi, déjà, mais dans notre vie tout court, de savoir regarder les choses en face, de savoir porter la responsabilité de ce que, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous... et aussi savoir être responsables les uns des autres. Savoir être ceux qui se soutiennent et non pas ceux qui se battent les uns contre les autres. Savoir être ceux qui gèrent les choses de la bonne manière. Ceux qui, lorsque le Seigneur reviendra, n'auront pas à rougir de leur attitude. N'auront pas caché dans un coin ce talent. Parce que talent, aujourd'hui, on peut mettre le don, mais c'est vrai qu'aussi, il s'agit d'argent, là encore. Et c'est assez étonnant, d'ailleurs, ce passage sur les talents. Parce que, entre parenthèses, Jésus parle d'argent en plus. Tiens, Jésus parle d'argent dans sa parabole. Il néglige pas ce point-là. Et alors, bien sûr, si on parle d'argent, c'est un point très sensible. Attention, c'est un peu tabou. Mais si c'est un point très sensible, c'est aussi l'image de tous ces points sensibles que nous pouvons avoir dans nos propres vies et que nous cachons volontairement, peut-être les uns des autres. Attention, il y a certaines choses, on n'en parle pas. Parce qu'il s'agit de mon moi. Il s'agit de ce que... Voilà. De ce que je... Et forcément, le sujet de l'argent, c'est un sujet. Mais c'est aussi l'image de tous ces autres sujets que l'on ne veut pas mentionner, dont on ne veut pas parler, et par rapport auxquels on fait bonne figure. Par rapport auxquels on le cache, on le met dans un coin, on ne s'en occupe pas. D'accord ? On le laisse là-bas. Mais lorsqu'on laisse quelque chose dans un coin, c'est un don que Dieu veut nous permettre de développer, que l'on cache dans un coin. Parce que Dieu nous donne à la mesure que l'on peut à la mesure selon laquelle on peut recevoir. Amen. Dieu nous donne de sorte que nous sachions gérer ces choses-là. Et il n'est pas idiot. Il ne va pas faire en sorte que nous retrouvions, je ne sais pas moi, en situation de directeur alors que nous ne sommes pas en mesure de savoir diriger. Il ne va pas nous laisser nous retrouver. Mais si par contre, le cheminement dans lequel il nous conduit va dans un certain sens, va dans ce sens-là, alors c'est que nous avons certainement des choses à apprendre, à voir, à comprendre et à changer pour nos propres vies. Et être malléable entre les mains de Dieu. Revenir comme cette argile dans les mains de Dieu. Et des fois, Dieu a besoin de nous endormir pour nous refaçonner encore un petit peu. Il a besoin de nous... Voilà. Mais si on se dit comme cette argile qui a vécu et qui est rigide, plus rien ne peut changer ma position, plus rien ne peut changer ma vie, alors qu'est-ce que nous pourrions apprendre de Dieu? Qu'est-ce que nous pourrions... pourquoi est-ce qu'il viendrait même nous parler? Pourquoi est-ce qu'il viendrait même nous expliquer certaines choses pour nos vies? Pourquoi est-ce qu'il viendrait nous poser des questions? Pourquoi est-ce qu'il le ferait si nous ne sommes pas disposés à entendre? Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Est-ce que ça sert à quelque chose? Lorsque Christ parlait à ceux de son époque, il parlait à ceux qui voulaient bien entendre. Il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que si nous avons des oreilles, c'est que nous sommes censés entendre. C'est que nous sommes en mesure, nous avons reçu la compétence pour entendre. Mais si nous avons des oreilles que nous n'entendons pas, que nous ne voulons pas entendre, alors nous devenons comme ce peuple au cou raide, que Dieu ne peut pas diriger, que Dieu ne peut pas conduire. Non, je résiste. Je résiste à tout. Faire les comptes de notre propre vie. Savoir faire les comptes de notre propre vie. Savoir faire le bilan et agir en conséquence. Agir avec intelligence. Et je ne sépare pas la vie de foi, la vie spirituelle, de la vie d'intelligence dans laquelle Dieu nous conduit. Comme je ne sépare pas le fait que nous puissions être des hommes et des femmes conduits par l'Esprit, inspirés du Saint-Esprit, et des hommes et des femmes qui savent réfléchir et qui savent regarder et qui savent faire preuve de sagesse, d'intelligence et de choix qui vont bien. Parce que Dieu infuse en nous le Saint-Esprit. Et que nous ne savons pas dire, vous ne savez pas dire, je ne sais pas dire à quel moment ce que je fais est inspiré du Saint-Esprit et à quel moment il ne l'est pas. Alors des fois on peut dire à quel moment il ne l'est pas, malheureusement, mais on ne sait pas mesurer à quel moment les choses, l'œuvre de Dieu commence dans nos vies et à quel moment elle s'arrête. On sait des fois quand on a été trop loin et quand on doit revenir. Et à ce moment-là, on doit savoir revenir. Et à ce moment-là, on doit savoir tout remettre à plat. On doit être en mesure de faire le bilan de notre vie. Pas uniquement le 31 décembre de chaque année. Pas uniquement à ce moment donné où on dit « on va faire les vœux pour cette année, voilà ce que je vais changer ». C'est chaque jour et chaque moment. C'est chaque fois que nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que nous puissions être en mesure de nous placer devant Dieu et pas de nous flageller. Pas de se dire « voilà, j'ai fait quelque chose de mal, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais de comprendre, d'avoir l'intelligence, de rentrer dans l'intelligence de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Je vais vous inviter à prier. Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur, qui dispose dans nos vies tellement de choses. Et on ne sait pas où commence et où se termine l'œuvre que tu accomplis, Seigneur, en nous. On ne sait pas, Seigneur, par où nos chemins, Seigneur, vont passer demain. Parce qu'on n'est pas, Seigneur, sur ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition, mais on est sur le chemin étroit et resserré, parfois même tortueux, où on ne sait pas qu'est-ce qui va nous attendre au prochain tournant. Mais on est avec cette lampe à nos pieds, Seigneur, qui éclaire notre chemin, et cette lampe, c'est toi. Et Seigneur, dans ce cheminement, Seigneur, nous voulons bien sûr te faire confiance. Et je veux te prier, Seigneur, que toutes ces paroles ne soient pas des paroles en vain, mais qu'elles sachent trouver notre cœur pour que tu sois en mesure de réformer nos vies, de réformer nos voies. Nous sommes tellement une diversité d'hommes et de femmes, Seigneur, dans cette Église. Nous avons tellement de défis à faire face, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur, que, Seigneur, c'est pas possible de mentionner quoi que ce soit, mais toi, tu connais toutes choses. Tu sais, Seigneur, comment nous interpeller, tu sais comment parler à la vie de chacun d'entre nous, parce que tu te soucies de nous. Et je prie, Seigneur, que s'il y a des verrous, Seigneur, dans nos vies, qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent de comprendre, ou qui nous empêchent d'avancer, que ces verrous sautent dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui voudrait nous empêcher d'avancer dans ta volonté, qui voudrait nous empêcher, Seigneur, de réformer nos vies, de nous remettre même en question, Seigneur, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que tout orgueil soit brisé dans nos vies au nom de Jésus. Que toute œuvre de l'ennemi soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous d'être humbles et petits devant toi. courbe nos fronts, courbe notre dos, courbe nos cœurs, Seigneur, courbe-nous, Seigneur, devant toi, et que nous sachions accepter, Seigneur, ce qui ne va pas, des fois dans nos vies, ce qui a besoin d'être réformé, et ce qui a besoin, Seigneur, d'être changé. Donne-nous de savoir faire le compte, Seigneur, pour nos propres vies, et de nous tenir, Seigneur, devant toi, l'esprit bien disposé, dans la paix du Saint-Esprit, pour que nous puissions partir et avancer avec toi, Seigneur, comme de manière nouvelle. Nous sommes chacun, Seigneur, chacune, une couleur particulière, mais nous voulons, Seigneur, réaliser combien le tableau que nous formons, le paysage que nous formons ensemble, Seigneur, avec toute cette multitude de couleurs, peut être tellement beau lorsqu'il est conduit, Seigneur, par toi, et lorsqu'il se laisse diriger par toi, Seigneur, et qu'il se laisse aussi reprendre par toi. Reprends nos vies, Seigneur. Reprends-les, Seigneur, dans là où elles sont défectueuses, là où elles ne sont pas, Seigneur, en accord. Tu n'es pas l'accusateur, mais tu es celui, Seigneur, qui nous dirige pour nous amener plus loin toujours, Seigneur. Merci, Seigneur, de ton conseil. Merci, Seigneur, de ce que ton esprit, Seigneur, nous donne ce conseil. Tu es celui qui nous conseille. Tu es le bon conseiller, Saint-Esprit. Et tu nous parles. Tu parles à nos cœurs au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen.
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 Soyez encouragés.
Amen.
Que le Seigneur vraiment fortifie nos vies, chacune de nos vies. Amen.
Amen.
Et qu'il nous donne de méditer, de penser lorsque vous retournerez chez vous, lorsque vous serez dans votre lieu secret. Prenez vraiment un temps pour méditer, pour réfléchir à ce que Dieu veut faire comme réforme dans vos vies, dans nos vies. Amen.
Amen.
Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.